Campus 88.3 FM.
C'est une légende urbaine.
Oh, ça fait du bien un peu d'air.
Hey, Radio Campus, le maire régional d'Orléans.
Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées.
Le moulin à parole.
Radio Campus 88.3, samedi 13 mai, en direct depuis le Salon du Livre, deuxième édition, qui se tient au Collège Montesquieu de Orléans-la-Source. Voilà, plusieurs associations, auteurs et animations sont proposées aux familles qui viendront, on l'espère, nombreuses, parce qu'on vient tout juste d'ouvrir les portes. Et on a le plaisir d'accueillir Laurent Guichard, il est auteur. Il a sorti le livre Stand 86 en 2019 par l'auto-édition via Publish Room Factory. Et il va être interviewé par Ryan Safouane et Mélina. Bonjour Monsieur Guichard.
Bonjour.
Bonjour Ryan, bonjour Safouane, bonjour Mélina.
Bonjour.
Alors attendez, est-ce que... Si c'est bon, j'ai envoyé l'enregistrement. On commence tout de suite avec une première question de Ryan.
Depuis quand vous avez commencé à écrire ?
Alors j'ai commencé à écrire ce roman 2 ans auparavant de son lancement réel. Donc, on va dire, oui, en 2017. Voilà. Et j'ai mis, ouais, à peu près, enfin, un peu moins de 2 ans à l'écrire avant de le proposer, pour pouvoir le proposer au public.
Est-ce que c'était dur d'avoir commencé ?
Alors, le commencement, non. Après, c'est de réussir, parce que quand on écrit, on est assez exigeant. On veut surprendre le lecteur, on veut le captiver par l'histoire et en fait, j'ai dû retravailler plusieurs fois mon livre pour qu'il soit vraiment très intéressant, qu'il y ait du suspense et puis qu'il soit abouti. Donc, c'est pas toujours facile, mais il faut s'accrocher. Il y a du travail et on y arrive.
Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire le livre ?
Alors, ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai deux passions en fait. C'est qu'il y a le sport automobile depuis l'enfance qui m'intéresse beaucoup. Et puis aussi, dans la lecture de polar. Et ces histoires-là m'ont inspiré. Je me suis dit, pourquoi pas mélanger les deux genres, apporter le polar dans le sport automobile. Et surtout, j'avais envie de créer quelque chose, une histoire qui existerait. Donc, c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire.
Qui a corrigé vos fautes d'orthographe dans le livre ?
Alors, effectivement, quand on écrit un manuscrit, il y a forcément des fautes d'orthographe. Alors, tout d'abord, merci l'ordinateur, parce que dans Word, quand j'utilise le logiciel, il y a des corrections, mais ça ne fait pas tout. Le manuscrit, a été, quand je l'ai voulu le faire éditer, là, il y a une maison d'édition réelle avec des gens, quelqu'un qui relit le manuscrit et qui corrige systématiquement les fautes, parce qu'il est hors de question de vendre un livre avec des fautes.
J'ai déjà vu un livre avec des fautes.
Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle des coquilles, ça arrive des fois. Et moi, c'est arrivé la première édition des quelques exemplaires de mon premier roman. Quand il a été édité, il y a eu des erreurs. Donc moi, quand je l'ai relu, j'ai surligné et j'ai renvoyé à la maison d'édition. Et les éditions suivantes ont été corrigées. Et théoriquement, à l'heure actuelle, il ne doit plus y avoir de faute dans mon roman.
D'accord. Comment ça s'est passé quand vous avez voulu faire créer le livre ?
Et du coup, je me suis renseigné beaucoup. Tout d'abord, je connaissais des auteurs qui s'étaient auto-édités comme j'ai voulu, je l'ai choisi. C'est-à-dire que j'ai écrit mon roman et je ne voulais pas envoyer plein de manuscrits à des maisons d'édition parce que fabriquer des manuscrits, ça a un coût. Moi, je voulais absolument qu'il soit édité. Donc, j'ai choisi une maison d'édition parce que justement, sur Internet, encore une fois, j'ai trouvé une maison d'auto-édition qui expliquait très bien comment elle procédait. Son travail m'a séduit. Donc, c'est pour ça que je me suis penché vers cette maison d'édition pour faire éditer mon livre.
Est-ce que parfois vous vouliez abandonner ?
Alors, c'est un peu le syndrome de la page blanche, effectivement. J'ai écrit qu'un livre. Le deuxième, j'ai la volonté d'écrire un second livre. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pas faute d'idées. Donc là, le syndrome de la page blanche, il n'est pas forcément là. C'est le temps, parce que donc moi, l'écriture, c'est un loisir. J'ai d'autres priorités à l'heure actuelle. Et c'est vrai, et j'ai pas forcément... contrairement à la première fois, j'avais cette grosse volonté de faire sortir ce premier roman. À l'heure actuelle, j'ai pas forcément l'occasion de me remettre à l'écriture. Mais c'est vrai que je suis motivé. Je serais aussi intéressé à écrire un second roman.
Vous avez vendu combien de livres ?
Alors, j'ai vendu l'équivalent, je pense, en direct. Quand je dis en direct, c'est-à-dire en présentant comme aujourd'hui mon livre devant le public, à peu près 200 exemplaires à différents événements, donc soit des foires aux livres, des salons du livre, des événements liés au sport mécanique, parce que comme le thème c'est le sport mécanique, je suis allé sur des endroits assez insolites comme des motocross, comme des courses d'endurance, comme à Olivet au terrain de la Gremuse il y a quelques années, dans la poussière. Donc, et voilà, c'est pour aller au plus près du public, pour me présenter comme aujourd'hui, pour discuter, parce que ce n'est pas forcément des ventes spontanées, c'est des discussions tout le long de la journée, des découvertes, des échanges.
Quand seriez-vous si le livre serait connu ?
Ça, c'est pas... tu vois, la réponse, c'est... enfin, c'est pas évident de répondre à cette question. C'est-à-dire que j'attends pas la gloire avec ce livre. Voilà, c'est... Localement, déjà, j'ai une certaine reconnaissance, aussi par le biais des fois des articles dans les journaux. Et puis aujourd'hui, voilà, être présent dans une radio. Donc c'est un moyen de communication qui n'est pas négligeable du tout, au contraire. Et puis voilà, après, c'est un livre, il fait son petit bonhomme de chemin. L'important, c'est qu'il soit apprécié par son lecteur. Et j'en attends pas une reconnaissance pour en vivre.
Comment vous écrivez votre livre avec votre travail ?
Ah, et ben alors donc c'est un loisir, hein. Donc l'écriture, ça passe après le travail, ça passe même après la vie de famille. C'est en plus, il faut s'isoler quelque part, on est seul. Donc une heure d'écriture, par exemple, c'est très vite passé, mais c'est une heure qu'on passe pas avec sa famille ou qu'on fait pas autre chose. Et c'est pas seulement une heure, c'est des heures et des heures. Donc il y a un peu un petit sacrifice personnel, c'est qu'on se met en retrait de sa famille et de son travail ou d'autres loisirs. Et c'est assez chronophage, hein, donc ça prend du temps. Donc voilà, c'est ça aussi, écrire un livre, c'est prendre du temps.
Alors j'aimerais bien qu'on creuse un peu justement, donc ça vous demande une organisation par rapport à votre vie professionnelle, votre vie familiale. Et après, alors quel est le processus de création, sachant que votre temps est précieux, comment vous y prenez ?
Ah, déjà je pense que aussi... Pendant ma vie, que ce soit au travail ou pendant mes loisirs. Des fois, je pense à l'histoire parce que c'est quelque chose qui, surtout quand je l'ai créé, ça me travaillait beaucoup. Je veux dire, l'imaginaire, il travaille tout le temps dans la tête. Les idées, elles fusent et c'est au moment où on se pose, on va mettre ça sur le papier ou en fait, plutôt en tapuscrit, en noté à l'ordinateur. Et même parfois ça m'arrivait, j'ai un carnet où j'ai noté beaucoup d'idées et puis c'est comme ça, petit à petit ça a pris forme, quoi.
Mais disons que cette création, elle vous habite tout le temps, pas seulement au moment d'écrire. Du matin jusqu'au soir, jusqu'au moment où vous allez devoir mettre sur papier tout ce qui vous est passé par l'esprit.
Voilà, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, si théoriquement, il devrait y avoir un deuxième roman, parce que volontairement, à la fin de ce premier roman, j'ouvre une suite. Et les lecteurs qui ont lu attendent cette histoire parce qu'ils ont apprécié, ils attendent la suite. Et donc, forcément, il me faut des idées pour la suite. Et donc, j'y pense que je... Mais je me sers de mon quotidien aussi, où je, toujours encore une fois, l'inspiration de ce que je peux lire ou voir en film ou en téléfilm, et puis oui, mes lectures de polar préférées m'apportent des idées, des événements, toujours liés aussi à ce qui se passe en sport automobile à l'heure actuelle. Tout ça, ça m'apporte des idées pour écrire à nouveau.
Est-ce que parfois vous faisiez des nuits blanches ?
Non, il faut savoir ménager. faut savoir ménager son temps parce que la vie de tous les jours, le travail, la vie de famille, on est déjà pas mal occupé. Faut savoir se ménager et puis justement pour écrire, prendre le temps d'écrire et avoir les idées claires. Donc faut avoir quand même une certaine hygiène de vie.
Et la critique dans tout ça justement, est-ce que vous avez des retours en tant que, pas jeune écrivain, mais disons que vous n'avez pas un palmarès derrière vous, comment est-ce que justement vous pouvez être soutenu par la critique, les magazines littéraires, les émissions littéraires? Ça doit être difficile j'imagine.
Alors à ce niveau-là, je dirais que c'est plutôt le néant, c'est-à-dire que comme je vous dis, je reviens à l'échelle locale. Je suis plutôt. Par contre, c'est vrai que je suis un peu revenu quand j'ai eu l'occasion de revenir vers mes lecteurs, parce que c'est là le meilleur retour, hein, c'est le retour direct. Et effectivement, alors j'ai de la chance, mes 50 premiers lecteurs font partie de mes collègues. Déjà là, j'étais très étonné de leur engouement et de leur retour très positif. Globalement, les gens sont assez positifs. Après, effectivement, c'est un petit peu quand même une histoire liée au sport automobile. Il y a des gens qui sont un peu réfractaires au départ parce que c'est un univers qui n'est pas apprécié de tous. Hein, il n'y a pas que le sport automobile, il y a une histoire humaine aussi. Hein. On parle d'amitié, de trahison. La critique, globalement, les positives, on m'a pas tiré. C'est un roman. Il n'y a pas à faire de polémique de choses.
Et tant mieux d'ailleurs, peut-être.
Voilà. Non.
Oui, oui.
Avez-vous aimé faire des livres?
Ah ben oui, créer. Moi, le jour où mon livre est arrivé physiquement dans mes mains, c'était pour moi Noël, quoi. C'est un aboutissement. C'est comme un maçon qui construit une maison, qui son client rentre dedans. C'est une satisfaction.
Oui, mais si par exemple, comme Safon l'avait dit, s'il y a quelqu'un qui aime pas la page, mais alors que au fond, qui critique, mais alors que le livre il est bien.
Ça c'est la vie de chacun, ça, tout le monde, et heureusement on est libre d'aimer ou de ne pas aimer, et moi je n'oblige personne à lire ce livre, c'est vrai qu'à l'heure actuelle on donne son avis sur tout, écoutez, vous êtes libre, chacun est libre de donner son avis, même si le contenu ou même cette première page ne plaît pas, libre à chacun de...
Alors, y a un proverbe qui dit, Mélina, on ne peut pas juger un livre en regardant la couverture. Souvenez-vous bien de ce proverbe. Effectivement, il faut dépasser la couverture, les premières pages, oui.
C'est pour ça que j'ai posé cette question. Mmh. Parce que moi aussi, un jour, je n'ai pas aimé la page. Mais alors, quand la dame de la bibliothèque m'a dit de le prendre, je l'ai pris et j'ai bien aimé.
Et je pense que c'est précieux pour vous, justement, ces temps comme aujourd'hui, où vous pouvez rencontrer les lecteurs, lectrices et communiquer autour du livre. Justement, on a souvent besoin d'accompagnement parce que, je ne vais pas dire que tous les livres se ressemblent, mais il y a un titre, le nom d'un auteur en première page, et puis il y a une illustration qui vaut ce qu'elle vaut. C'est un peu insuffisant pour faire la promotion des centaines de pages qui s'y trouvent à l'intérieur. Et c'est pour ça, je pense que c'est précieux pour vous, ces rencontres avec votre futur lectorat.
Oui, complètement. Et puis là, ce matin, spontanément, avec les jeunes du collège, c'est encore des questions différentes de ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Encore un nouvel angle de communication autour de ce livre. Et c'est très intéressant de partager ces moments.
Alors, moi, j'ai encore une question, parce qu'après, on va vous libérer quand même, que vous puissiez retourner auprès de vos cadeaux que vous allez offrir aux lecteurs, lectrices que vous êtes fait à vous-même pour commencer. C'est comment êtes-vous devenu écrivain? Alors j'imagine qu'il y a eu beaucoup de lectures, mais comment est-ce que vous vous êtes lancé dans l'aventure? Comment ça s'est passé?
Alors en plus, au fond de moi, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi. Maintenant, ça va mieux, mais c'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que je sais écrire? Est-ce que j'avais j'avais vraiment beaucoup de préjugés et... Heureusement, autour de moi, disons que j'y suis allé de moi-même, je suis allé à la rencontre de gens qui avaient déjà écrit et j'ai commencé à leur proposer mes premiers jets et ils ont bien voulu prendre du temps justement pour... Et m'ont dit... Ils m'ont dit que ça pouvait être intéressant, que bah, suivant évidemment par rapport au domaine que j'avais choisi. Et puis, allez, à moi de faire les efforts, hein, donc de faire plusieurs chapitres, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Et puis donc, de proposer ce premier manuscrit comme je l'avais écrit au départ, qui n'est pas du tout qui était très retravaillé. Et donc, mais il y avait quand même des bases pour faire un roman correct.
Pardon, vas-y, oui.
Si vous voulez, on peut faire une publicité pour vous. Hein.
C'est gentil de votre part. Déjà, cette interview, c'en est une pour moi.
Eh bien, on va dire... on va faire une petite publicité. Mélina, vous allez dire Stand 86. Tu vas dire Stand 86.
Stand 86.
Un roman de Laurent Guichard. C'est Safouane qui va le dire. Un roman de Laurent Guichard. Dans le micro. Hein.
Un roman de Laurent Guichard.
Attends, recommence.
Un roman de Laurent Guichard.
Présenté sur Radio Campus 88.3.
Présenté sur Radio Campus 83.
88.3.
88.3.
Et tous les trois en même temps, vous allez dire livre en fête. 1, 2, 3.
Livre en fête.
Très bien, comme ça, notre jingle. Merci, monsieur Guichard. Donc, livre je rappelle fête. Que votre livre est disponible. D'ailleurs, oui, ben non, je ne peux pas le rappeler. Alors, comment est-ce qu'on peut se le procurer?
Eh bien, en fait, toujours pareil, bah, grâce à Internet, sur Amazon et les grandes librairies numériques. Et puis, mais il se trouve donc en version donc numérique, mais bien également en version papier. Oui, comme bon, la Fnac, Cultura, enfin toutes ces grandes enseignes. Et puis moi, donc, j'en ai une poignée que je vends directement sur le genre d'événements comme aujourd'hui.
Et puis sur les événements liés aussi à l'automobile, vous nous
disiez. Quand je peux y être, si je peux inviter ou si... voilà.
Ryan, vas-y.
Qui a construit votre maquette de voiture?
La maquette de voiture que l'on peut voir sur le stand.
En fait, pour promouvoir mon livre, c'est vrai, pour intéresser, pour interpeller les gens et les jeunes comme aujourd'hui, il y a un Lego technique et donc je l'ai construit parce que dans ce roman il y a une voiture assez phénoménale qui est là et qui est le sujet un peu le prétexte de ce livre et donc c'est une illustration qui est sur mon stand.
Godefroy.
Et sur Radio Campus 88.3.
Livre en fête, Collège Montesquieu sur Radio Campus Orléans.
Radio Campus 88.3, livre en fête, samedi 13 mai depuis le Collège Montesquieu à Orléans-la-Source où je suis toujours en compagnie de Safouane, Ryan et Mélina qui vont interviewer Olivier Godefroy. Il est auteur de romans, d'essais historiques et de livres régionalistes. Il habite Orléans et on commence tout de suite avec une première question posée par Mélina.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous faites quoi dans la vie?
Alors dans la vie, je travaille... au niveau professionnel, dans un laboratoire du CNRS à Orléans-la-Source, hein, où elle a situé les sciences de la Terre d'Orléans. Et puis à côté, donc, j'écris des livres, à la fois des romans et des essais qui ont trait la plupart du temps à l'histoire, notamment à l'Antiquité. J'ai fait aussi quelques ouvrages sur la région, la ville d'Orléans et puis le département du Loiret.
Et ça marche bien ?
Oui, globalement. Donc, après, ça dépend des ouvrages. Il y en a certains qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, je suis assez satisfait, oui.
D'accord.
Que faites-vous ici?
Alors là, donc, j'ai été invité en tant qu'auteur au Collège Montesquieu là, pour à la fois présenter mes ouvrages et puis aussi répondre... aux demandes et aux questions des lecteurs et des invités qui viennent donc participer à cette édition sur les livres au Collège Montesquieu.
Donc, vous écrivez des livres?
Oui, c'est ça. J'ai écrit une douzaine de livres, hein, donc certains des romans. Ça commençait par des polars, hein, historiques. Et puis après, je me suis, comme j'avais travaillé sur un personnage historique pour mes romans qui a vraiment existé, Hypatie d'Alexandrie, qui était une savante de l'Antiquité. Et comme il n'existait pas de biographie sur elle en français, j'ai décidé, comme j'avais beaucoup de documentation que j'avais accumulé, d'écrire cette biographie qui manquait, en fait. Voilà. Puis après, j'ai continué un petit peu sur le thème des femmes de l'Antiquité également.
Est-ce que ça a bien marché ?
Alors, le livre sur Hypatie, oui, a très bien marché. En plus, il y a eu quand même un film qui est sorti sur elle, qui s'appelle Agora. Et donc, c'est vrai qu'en fonction, grâce à l'actualité, ça a permis de bien booster les ventes de ce livre, notamment.
Combien d'exemplaires vous avez vendus ?
Alors, ça dépend des livres. Donc, les plus grandes ventes, ça a été sur Hypatie d'Alexandrie. Hein, on est à peu près à 3000 exemplaires. Et donc, ce livre va sortir en poche, d'ailleurs, prochainement. Alors, soit en fin d'année, soit l'année prochaine.
Merci beaucoup et je vous passe Safouane.
Merci à toi.
Que dites-vous des critiques sur votre livre ?
Alors, les critiques des lecteurs, hein, c'est ça ? J'ai pas eu pour l'instant trop d'avis négatifs. Hein. Enfin, j'ai pas eu. Je suis assez satisfait. Enfin, le public a l'air satisfait hein, des livres. En tout cas, sur les critiques qui sont parues sur Babel.io notamment, ou même sur certains sites de vente de livres connus.
Donc, vous faisiez des livres sur des personnes qui datent un peu ?
Oui, c'est surtout alors sur l'Antiquité. Donc, ça remonte un petit peu à l'Antiquité gréco-latine. Puis, j'ai aussi écrit un petit peu sur l'Antiquité de l'Orient ancien, donc l'Égypte, la Perse. J'ai fait un peu plus moderne, enfin un peu plus moderne si on peut dire. Hein. J'ai écrit un livre aussi, un roman qui parle sur une femme qui s'appelle Lubna de Cordoue. Donc ça se passe pendant le Moyen-Âge dans l'Espagne musulmane. Et puis le livre le plus moderne, c'est une biographie sur Flora Tristan. Donc c'était une socialiste et une féministe française la première moitié du 19e siècle.
Avez-vous déjà fait un livre sur Cléopâtre ou Louis XIV ?
Sur Cléopâtre, oui. Sur Louis XIV, non. Non, c'est pas vraiment mon domaine historique. Mais sur Cléopâtre, oui, j'ai fait un livre, en effet. Qui est sorti chez le même éditeur que le livre sur Hypatie.
D'accord. Et comment êtes-vous inspiré de faire écrire des livres ?
Ben en fait, je suis passionné par l'histoire. Hein. Je me suis beaucoup documenté sur la période historique de l'Antiquité. Et puis, j'ai toujours eu aussi une fibre littéraire. Quand j'étais plus jeune, j'avais commencé même à écrire des... Alors là, complètement différent, hein, des livres de science-fiction. Enfin, un manuscrit sur la science-fiction que je n'ai pas finalement terminé. Et puis, après, j'ai un petit peu abandonné... le domaine littéraire, et puis j'y suis revenu après en m'intéressant à l'Antiquité. Et je me suis dit bon, que j'avais accumulé certaines connaissances à ce sujet, j'ai voulu les faire partager, donc j'ai commencé par la forme du roman, et puis après, au fur et à mesure, j'ai décidé de faire plus des biographies historiques, plus des essais. Quoi, c'est pour faire connaître un petit peu ce que j'avais appris au plus grand nombre.
Et vous êtes de quelle origine ?
Je suis d'ici, moi. En fait, je suis né à Orléans, j'habite à Fleury.
Vous êtes né en France, ici ?
Oui, je suis né en France, oui. Oui.
Ah, d'accord.
Ah, ça ne m'empêche pas de m'intéresser à d'autres cultures. Hein. C'est pour ça que je fais sur l'Antiquité gréco-latine, l'Égypte ou l'Espagne musulmane. Mais donc, je suis d'ici, oui.
Merci. C'est autant de rien.
Merci.
Est-ce que vous avez d'autres projets à faire sur des temps modernes ?
Alors oui, j'ai écrit. Alors ça, parce que j'ai eu le temps pendant le Covid, hein, et j'avais dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, hein, de l'année prochaine, j'avais envie de parler des Jeux Olympiques qui se sont passés en 1924, donc il y a 100 ans, ça fera donc à la fois le centenaire des JO de 24 et puis ça, lié à l'actualité de l'année prochaine. Et je me suis plongé en fait dans la presse de l'époque pour un peu recréer le climat qu'il y avait à ce moment-là. Donc au niveau, j'ai repris l'actualité qui était au niveau national, international et l'actualité des Jeux Olympiques, montrer les différences qu'il y avait entre maintenant et puis ce qui s'est passé dans 100 ans. Donc ça, c'est un livre qui va sortir en septembre. Et puis j'ai aussi un livre qui va sortir, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, sur l'histoire du Loiret. Voilà. Alors sur certaines thématiques de l'histoire du Loiret, pas une histoire linéaire, mais certains grands faits. Donc ça part de l'histoire antique loiretaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
D'accord. Maintenant, je vous passe Safouane.
Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire vos livres sur la science ou les autres?
Alors sur la science sur Hypatie d'Alexandrie, c'est parce que je l'avais utilisé en fait comme roman. J'ai fait 3 romans policiers historiques sur l'Antiquité, une trilogie. Et j'avais voulu faire chercher comme détective un personnage qui sortait un peu de l'ordinaire et pas forcément prendre un homme. Et j'ai cherché une femme. Et dans l'Antiquité, je suis tombé un petit peu par hasard en lisant un ouvrage de science sur la vie d'Hypatie d'Alexandrie, qui était mathématicienne, astronome et philosophe du 4e et du 5e siècle. Et donc ça m'a décidé de l'utiliser. Et c'est comme ça que je suis venu en fait à écrire sur un personnage, une savante.
Quand vous étiez jeune, vous vouliez faire ce travail ?
J'avais pas imaginé en effet que je pourrais un jour écrire des livres et puis surtout être édité. Donc c'était un peu un rêve, mais j'avais un petit peu ça en tête, oui, mais c'était pas bien fixé, quoi.
Pourquoi choisir des femmes pour écrire dans les textes ? Pourquoi pas les hommes ?
Parce que les femmes sont un peu les oubliées de l'histoire. On parle beaucoup des hommes qui ont fait l'histoire. Et c'est vrai que l'histoire a été écrite, on dit que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, mais elle a été aussi écrite par des auteurs masculins qui ont laissé tout un pan de côté de l'histoire de l'humanité, notamment celle qui concerne les femmes. Et pourtant, il y a eu des femmes qui ont fait l'histoire et qui ont été importantes et qui ont été oubliées. Et donc, j'essaie un peu de... ce challenge de les faire un peu renaître, quoi, les faire redécouvrir. C'est un petit peu dans l'actualité, hein, finalement, de faire revivre les histoires des femmes, alors soit au niveau de la philosophie, la littérature. Il y a eu des femmes, même chefs de guerre. Hein, donc ça, on a un petit peu oublié. Enfin, c'est en train de revenir, donc j'apporte un petit peu ma contribution à ça.
Est-ce qu'avez-vous déjà rencontré des grandes stars de l'écriture?
Alors, oui, j'ai participé à quelques salons du livre. Bon, j'avais fait Salon du livre à Paris, il y a quelques années. Et puis le Salon du livre d'histoire à Levallois-Perret. Donc j'ai quelques historiens que j'ai connus. Pour les personnages, des gens un peu connus, il y a Nathalie Saint-Cricq que j'avais rencontrée, Raphaël Enthoven, voilà.
On va faire de la publicité, vous inquiétez pas. Et est-ce que, comme vous avez dit que ça marchait bien, vous en avez vendu combien des livres?
Le livre sur Hypatie, à peu près, ça s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Donc celui-là, il s'est bien vendu. 3 000.
C'est cher. Et 3 000, c'est beaucoup. Hein.
Oui, c'est bien. C'est pour ça qu'il va sortir en poche. Donc on commence à vendre.
Vous avez commencé il y a. Combien de temps?
Alors, commencer vraiment à écrire, j'ai commencé en 2003.
Ah oui.
Et à être édité en 2006.
Voilà. Ah, ça fait très longtemps.
Donc, ça fait une vingtaine d'années que j'écris.
Auriez-vous un projet important pour les autres années à venir?
Donc après préparer les deux prochaines sorties, le livre sur les Jeux Olympiques de 24. Enfin, sur Paris de 1924 et puis sur l'histoire du Loiret. J'aimerais bien écrire... donc là, c'est vraiment de l'histoire beaucoup plus contemporaine sur les munitionnettes. Donc ça, c'était ces femmes, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, qui ont replacé les hommes à l'usine et qui étaient notamment travaillées pour les forts de guerre. Donc, ils faisaient les obus, les munitions pour le pays. Donc ça serait, là aussi, c'est moins connu. Hein, donc c'était parler plus de la vie à l'arrière au conflit. Enfin,
Alors moi j'avais une question, y a-t-il un lien entre l'objet de votre travail au CNRS et vos romans, vos essais historiques, vos livres régionalistes ?
Non, il n'y a pas de lien, parce que donc, je travaille dans un laboratoire de géologie, à part d'avoir écrit sur une femme scientifique, notamment sur les femmes scientifiques, c'est le seul lien réel, quoi.
D'accord. Et concernant donc ces polars, tout à l'heure, on a rencontré un autre auteur qui nous expliquait que la démarche scientifique, justement, était la même que la démarche d'un enquêteur.
C'est vrai qu'on fait des recherches, déjà pour les intrigues. Hein, alors après, oui, c'est un petit peu semblable, oui, en effet. Oui. Mmh. Il y a des liens, oui.
Mais très peu. Concernant les livres régionalistes, j'imagine qu'il y en a. Enfin, vous n'allez pas nous parler du calcaire de la Beauce. Hein.
Non.
D'accord. Non. Et alors, justement, quel regard vous portez sur notre région dans vos livres?
Alors, en fait, moi, j'ai découvert. Je suis quand même originaire d'ici, mais c'est là, en écrivant à la fois sur Orléans et sur Loret, qu'on ne connaît pas forcément bien son histoire ou le patrimoine hein, de sa ville ou de son département. Et c'est vrai que j'ai appris plein de choses. Hein, il y a plein de choses intéressantes finalement à découvrir, des choses secrètes aussi.
Un lien avec la géologie quand même. On ne peut pas écarter les constructions en briques de Sologne, du sol de la Sologne. Et idem pour la cathédrale d'Orléans et ce calcaire.
Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de pierres qui viennent de la cathédrale qui sont originaires de l'Allier et de l'Anjou hein, aussi.
Donc, d'accord, qui n'étaient pas forcément du coin. Donc aucun rapport. Et c'est peut-être ça justement qui vous nourrit en tant qu'écrivain, justement. C'est un monde à part en fait que celui de votre travail.
Ah oui, c'est complètement différent.
Rien à voir.
Oui,
donc c'est un loisir pour vous, c'est une passion.
Ah oui, c'est une passion, oui, c'est un loisir. Oui, oui.
D'accord.
Oui, ça permet de s'évader, hein, de découvrir d'autres choses. C'est... Mm-hmm. Voilà.
Et une petite table ronde avec les jeunes, justement. Est-ce que vous, le fait de rencontrer des auteurs comme vous avez pu le faire aujourd'hui, ça pourrait vous donner envie de lire ou d'écrire? Ou les deux, peut-être? Mélina?
Oui.
Safouane, oui?
C'est lire.
Lire,
c'est
oui.
Passe-temps.
Oui.
Non, parce que j'ai des autres projets à faire.
T'as des autres projets à faire, d'accord. Merci, monsieur Olivier Godefroy.
Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
On vous retrouve, j'imagine, en tapant votre nom, prénom sur Internet pour pouvoir acquérir vos romans, essais littéraires, essais historiques et autres livres régionalistes. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Merci. Bonne soirée et bonne journée. Au revoir.
Bonne journée également.
Bonne journée.
Godefroy et sur Radio Campus 88.3.
Livre en fête, collège Montesquieu sur Radio Campus Orléans.
Radio Campus 88.3, samedi 13 mai, livre en fête au collège Montesquieu. Une manifestation consacrée à la lecture et l'écriture grâce à des animations proposées à la fois par des professeurs, des lecteurs et des associations et des auteurs. Je retrouve mes mots, je suis en compagnie de Claude Joseph, il est auteur de polars et d'essais, il a réalisé plus de 14 ouvrages, il est originaire de La Motte-Beuvron en Sologne, habite actuellement à Saint-Cyr-en-Val et il fut par le passé universitaire à Orléans. Bonjour monsieur Joseph.
Bonjour.
Alors votre œuvre est très large et très variée, puisque vous faites à la fois des polars et des essais. Quel type d'écrivain êtes-vous alors?
Vous savez, je suis écrivain un peu par accident. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais décidé d'essayer de faire quelque chose de nouveau pour moi. Et je suis tombé dans le bain de l'écriture, d'essais qui étaient dépendants de ma formation initiale, c'est-à-dire la physiologie végétale. Et après, j'ai élargi au niveau des polars parce que ça m'amusait et je fais ça par plaisir.
Est-ce que vous pensiez déjà à vous jeter dans l'écriture avant d'être à la retraite?
Bah, disons que par mon métier d'enseignant-chercheur à l'université, j'étais habitué à écrire quand même de nombreux articles. Et je me suis dit que bah, je pouvais peut-être utiliser cette compétence, entre guillemets, pour un violondingue nouveau pour la retraite.
Et puis donc, alors vous écriviez beaucoup autour de la physiologie végétale, c'est bien ça.
C'est ça.
Aucun rapport avec le polar.
Non, aucun, mais c'est par plaisir que je suis tombé dans le domaine du polar.
Alors c'est un autre type d'écriture. Vous partiez peut-être en terrain plus inconnu.
Sauf que pour mener à bien une enquête de police, notamment sur un drame, sur un meurtre, il faut avoir l'esprit cartésien et en tant que scientifique, j'étais favorisé dans ce domaine.
Et une démarche scientifique.
Tout
et
à
oui,
fait.
Et oui, ce ne sont pas des, il faut des preuves, il faut des faits, il faut remonter des traces.
Oui, et d'ailleurs, pour éviter de dire des âneries, je me suis adressé à la gendarmerie nationale pour savoir comment on effectuait réellement une enquête. Parce que dans la littérature, dans les émissions de télé, on trouve tout et n'importe quoi sur la façon de mener à bien une enquête de gendarmerie ou de police.
Mmh. Alors, Claude Joseph est un auteur local aussi, puisque donc, vous êtes originaire de La Motte-Beuvron, donc de la Sologne. Est-ce que, alors que ce soit la physiologie végétale ou les polars, est-ce que ce territoire propre à notre culture locale, hein, à savoir la Sologne, donc notamment ses forêts, peut inspirer que ce soit vos essais, vos recherches scientifiques, vos polars comment toute cette œuvre se situe dans ce terroir?
Alors, tous mes polars s'intitulent « Macabre découverte à ou en soit des villes, soit des régions que je connais particulièrement ». Et le premier polar que j'ai écrit s'intitule justement « Macabre découverte en Sologne ». Parce que je suis né, j'ai vécu mon enfance en Sologne. Et ensuite, j'ai écrit « Macabre découverte en Savoie », qui est une patrie d'adoption pour les vacances. Ensuite, « Macabre découverte en Bretagne », qui est le pays d'origine de mon épouse, etc., etc.
Mais c'est terrifiant.
Ben, peut-être.
Toute la France y passe.
Oui, et là, mon dernier polar est sorti de l'Hexagone, puisque j'ai écrit « Macabre découverte » dans le Negev israélien. J'étais allé à un colloque dans le Negev sur une plante particulière, le jojoba, et ça m'a inspiré une histoire.
Et concernant donc les macabres découvertes qui ont eu lieu en Bretagne, en Savoie, est-ce que vous êtes allé dans ces pays-là?
En Savoie, j'y vais traditionnellement, enfin en Haute-Savoie plus précisément, j'y vais traditionnellement 3-4 fois l'an, pendant les vacances d'hiver quand j'étais en activité, les vacances d'été et puis maintenant un peu n'importe quand. En Bretagne, c'est pareil puisque c'était la patrie de mon épouse, j'y vais fréquemment. Toutes les régions dont je parle sont des régions que je connais bien. Et en fait, l'histoire du polar, c'est un faire-valoir pour décrire une région. Parce que dans mes polars, je décris beaucoup la géographie et la sociologie et la façon de vivre dans ces régions.
Alors la sociologie, ça n'a rien à voir avec l'objet de vos études. Hein.
Non, mais ce sont deux domaines qui me plaisent particulièrement et pour lesquels j'essaie d'apporter quelque chose ou de faire partager un point de vue, une idée, une culture.
Alors, c'est intéressant parce que donc, vous êtes écrivain. Alors, vous savez qu'il y a malheureusement cette opposition entre sciences dures et sciences molles, entre sciences humaines et sciences physiques, biologiques, etc. Et vous mêlez les deux dans vos œuvres. Alors, pas forcément en même temps. Ça peut être donc dans des ouvrages qui sont plus de l'ordre des essais et puis d'autres où vous laissez beaucoup plus de place à votre imagination et peut-être un peu de fantaisie, que ce soit les polars. Mais votre esprit concilie les deux, en fait. Ces deux visions du monde, une qui est très cartésienne, celle de l'enquête, puis celle de l'essai, et puis celle où vous vous laissez justement aller à la description donc de sociologie, enfin j'imagine de rapports humains, et puis de paysages, plus poétiques.
J'essaie tout au moins, je ne sais pas si j'y parviens, mais en tout cas j'essaie, et c'est parce que ça correspond à un désir du moment. Et alors même dans mes essais, j'ai fait des essais d'un type particulier. J'ai écrit un ouvrage sur le dopage dans le cyclisme parce que j'aime beaucoup le cyclisme, j'ai pratiqué le vélo et je suis un peu horrifié par ces traitements qu'utilisent les coureurs pour devenir des champions.
Mmh. Alors, vous avez été édité dans plusieurs maisons d'édition. Alors, cela s'explique justement par les types d'ouvrages. Hein. J'imagine que ce ne sont pas les mêmes éditions qui ont porté vos essais ou vos polars. Comment est-ce qu'un écrivain... Alors, vous êtes à la retraite. J'imagine que vous faites partie de celles et ceux qui ont encore une retraite aujourd'hui. Comment est-ce que, justement, un écrivain peut-il exister, justement, dans cette immensité de production littéraire, très prolifique, hein. Non, alors, il y a les rentrées littéraires, il y a les bibliothèques, c'est énorme, c'est par dizaines de milliers de titres différents. Comment est-ce que vous arrivez à vous faire votre place?
Alors, j'ai décidé d'entrée de jeu de m'adresser à des éditeurs à compte d'éditeurs, pour lesquels donc je n'ai rien à payer. Je ne voulais pas de compte d'auteur pour lesquels les sommes demandées sont souvent exagérées, à mon avis. Il faut savoir, d'après les statistiques que j'ai pu lire, qu'il y a 0,1% des manuscrits qui sont acceptés par les éditeurs à compte d'éditeurs. Donc, au début...
j'ai 1 sur 1000. Oui, c'est ça. Voilà.
Au début, j'envoyais à 40 éditeurs mon manuscrit et souvent... Je recevais une lettre me disant c'est intéressant, mais ça n'appartient pas à notre ligne éditoriale. C'est une formule polie pour dire on ne veut pas de votre bouquin, quoi. Et puis, un jour, j'ai reçu un message me disant ça nous intéresse. Et à partir du moment où on a un pied dans une maison d'édition, c'est un peu plus facile de passer les romans. Donc, je me suis fait une petite place, très modeste place, dans ces conditions.
Alors, est-ce que les essais se vendent mieux que les polars?
Non.
Vice-versa, est-ce qu'il y a...
Non, je crois que ça dépend du moment, ça dépend de la façon dont la publicité, entre guillemets, est faite. Moi, je fais des séances de dédicaces dans des petites librairies, dans des centres commerciaux. C'est ça qui fait vendre, en fait.
Alors, vous étiez un habitué de la lecture hein, de par vos études universitaires et puis même en tant qu'universitaire, de l'écriture par ailleurs, donc vos étudiants également. Mais aujourd'hui, donc on est sur cette manifestation Livre en fête. Comment justement susciter l'intérêt et le goût pour la lecture auprès des enfants et des jeunes, selon vous?
Il faut leur montrer qu'il y a pour eux un intérêt culturel, certes, mais un intérêt également pour leur propre rédaction ultérieure, pour leur propre comportement ultérieur. Je ne sais pas si c'est efficace, je l'espère, mais c'est l'avenir qui le dira.
Le comportement, c'est-à-dire?
Leur position dans la vie, dans la société.
Vous pensez que la lecture permet cela, justement?
Je pense qu'il y a un certain nombre de références, oui, qui sont utiles.
Ah oui, d'accord, ça permet justement d'augmenter le nombre de références et puis aussi la connaissance du monde.
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Dans vos polars, quelle est la spécificité de vos polars? Est-ce qu'il y a
c'est toujours
un style qui vous caractérise?
C'est toujours la même trame. On découvre un cadavre, on cherche quelle en est l'origine, mais ce cadavre, il n'est pas n'importe où, il est dans une région particulière. Donc j'approfondis autant que possible... les caractéristiques de cette région, de ce lieu, des personnes qui y vivent.
Et est-ce que la Sologne a eu du succès dans les autres départements français?
Je dirais que c'est le polar qui a été le plus vendu parce que les gens de la région, notamment, sont intéressés.
D'accord. Il y a un nom pour ce type d'auteur, justement, auteur local, auteur du terroir?
Je ne sais pas.
Non, d'accord, parce qu'on parlerait de folklore en musique et en littérature. Oui. Alors, vous appartenez... On a Maurice Genevoix du côté de Châteauneuf-Saint-Denis-de-l'Hôtel, évidemment.
J'arrive très, très loin derrière Maurice Genevoix.
D'accord. Et alors, tiens, puisqu'on parle d'auteurs, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré?
Je lis énormément, beaucoup de livres différents les uns des autres. Je ne me focalise pas sur un auteur particulier... Je fais ça au coup de cœur, en fait. Je regarde un petit peu la quatrième de couve et puis je vois si éventuellement je suis intéressé. Non, je n'ai pas de formule particulière, de démarche particulière.
Mmh. Et puis apparemment, vous écrivez assez vite quand même, parce que 14 ouvrages depuis que vous êtes à la retraite, alors, vous êtes très prolifique.
Alors disons que en moyenne, je mets 6 mois à écrire. Après, je donne à mon épouse qui était institutrice et qui est maintenant à la retraite, je lui donne l'ouvrage à corriger, enfin le manuscrit à corriger, parce que j'ai horreur de me relire. Et ensuite, je donne à un couple d'amis dont l'épouse était une collègue de ma femme. Le mari était professeur de lettres classiques dans un lycée d'Orléans. Il corrige également. Et je donne enfin à un ami qui était instituteur à la Motte-Beuvron, qui fait la dernière correction, parce que je pense qu'on a besoin, non pas seulement pour l'orthographe et la syntaxe, mais également pour le style, la façon de présenter les choses, d'avoir plusieurs correcteurs, plusieurs origines. Donc ça demande un certain temps, et après, je soumets à l'éditeur. Donc ça demande un an en moyenne pour un livre.
Alors, votre travail ressemble à celui des abeilles, dont le miel passe de bouche en bouche avant de devenir le miel que l'on pourra récolter.
On peut le dire.
D'accord. Et c'est intéressant aussi parce que alors, j'interviewe souvent des auteurs, des autrices, et on pourrait imaginer un petit peu d'ailleurs, il y a un poète pas loin de vous, de votre stand, que l'auteur est solitaire, enfermé dans sa chambre avec une bougie, et bien au contraire.
Ah non, c'est pas du tout mon genre. De même qu'on me demande parfois, vous écrivez quand ? Le matin, le soir, la nuit ? Non, j'écris quand j'ai envie d'écrire et quand le moment est libre. Je peux très bien me mettre sur l'ordinateur après le déjeuner. Et puis, au bout d'une heure, mon épouse me dit, tiens, il faudrait qu'on aille faire une course. Je sauvegarde, je vais faire la course, je reviens, je me remets à l'ordinateur. J'ai pas de planning précis pour faire ça.
Très bien, merci monsieur Claude Joseph. Donc voilà, donc, le miel est disponible. Donc on peut trouver donc vos ouvrages, j'imagine, sur internet. Hein,
oui, tout à fait.
En tapant Claude Joseph. Ouais. Voilà, et notamment donc les différents polars qui se passent dans des régions de France, hein, telles que la Savoie, la Bretagne ou encore la Sologne. Donc Macabre découverte. Voilà, il commence comme ça. Et puis vos essais donc sur la physiologie végétale. Merci monsieur Joseph.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées.
Le moulin à parole.
Thank you.